Ce message qui sera un peu bref, parce que finalement c'est très bien que le Saint-Esprit ait conduit dans un bon moment d'intercession, c'est très important. Je veux quand même laisser sur votre cœur quelques éléments d'instruction et d'encouragement biblique. On va introduire ce partage par une série de trois textes bibliques, Jean chapitre 2, le verset 13 jusqu'au verset 17, Jean 2, 13, nous dit ceci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. Amen. » Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, nous lisons encore ceci. Chapitre 21, le verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna, au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Amen. Et enfin, Jérémie, chapitre 1, et à partir du verset 7, Jérémie 1, 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. » Je voudrais faire un lien, bien sûr, avec ces trois textes, ces trois passages, et attirer votre attention sur les six verbes que Dieu utilise lorsqu'il appelle Jérémie pour qu'il devienne un prophète dans sa génération. Il n'était qu'un enfant, et quand Dieu l'a appelé, eh bien son âge novice et inexpérimenté lui a fait dire, mais je ne suis qu'un enfant. Mais Dieu dit, non, ne dis pas tu es un enfant, et Dieu va lui donner le cahier des charges du ministère auquel il l'appelle, et qui se résume dans ces six verbes. Et je voudrais qu'on puisse réfléchir sur ces verbes, six verbes. Les quatre premiers sont des verbes, est-ce qu'on peut appeler ça des verbes négatifs, dans le sens qu'il s'agit, d'abattre, d'arracher, de ruiner, de détruire. Et puis deux verbes, on termine par ces deux verbes, on a envie de dire, une fois que Dieu a arraché certaines choses, a détruit et ruiné certaines choses, il a fait en quelque sorte un ménage, un nettoyage. Alors, deux merveilleux verbes, tu bâtisses et tu plantes. Et je veux voir ici la sagesse de Dieu dans la vie de l'être humain, mais aussi dans la vie en particulier de ses enfants dont nous sommes. On a lu deux textes qui nous ont présenté Jésus quand il est intervenu à l'intérieur du temple de Dieu. Jérémie a été établi le prophète sur les nations, mais là maintenant on est dans le temple de Dieu et on s'aperçoit que même à l'intérieur du temple de Dieu, il y avait des choses qui avaient besoin d'être renversées, d'être évacuées, afin que, après que Jésus ait fait ce ménage, la gloire de Dieu se manifeste, des aveugles ont été guéris, des boiteux ont été miraculés, et le temple de l'Éternel a résonné des louanges et des hosannas. On veut vivre ça, nous aussi, n'est-ce pas? On veut être nous-mêmes, parce que c'est ça la dimension spirituelle de ces textes, on veut être nous-mêmes des temples. Nous sommes chacun pour sa part déjà. Le temple, l'habitation de Dieu, nous sommes réservés, nous lui appartenons, nous sommes mis à part, nous sommes à lui. Tu es un temple du Seigneur. Et la volonté de Dieu, c'est que dans le temple que tu es, se manifeste sa gloire. Et résonne et retentissent des hosannas, des cris d'émerveillement, des louanges, alléluia. Mais parfois, il faudra au préalable permettre au Seigneur de faire le ménage. Est-ce que tu vas le lui permettre? Moi, je prie, Seigneur, si tu vois dans ma vie intérieure, dans mes pensées, dans mes souvenirs, dans mes schémas, dans mes modes de pensée, dans certains éléments de mon héritage du passé, mon héritage culturel, mon vécu, mes traumatismes du passé. Si tu vois qu'il y a des choses à renverser, Seigneur, renverse-les. Est-ce qu'on veut lui permettre ça? Amen. Seigneur, non seulement renverse-les, mais une fois que tu les auras renversés, évacue-les. Fais-les disparaître. Que je sois un temple parfaitement nettoyé, débarrassé des encombrants, purifié, lavé, nettoyé, et que tout l'espace que je représente soit maintenant disponible pour que la gloire de mon Dieu se manifeste et que des hosannas retentissent au fond de mon cœur. Que Dieu soit béni. Il faut quand même admettre qu'en raison du péché, il y a dans l'homme en général, et même chez le chrétien, et même après sa nouvelle naissance, et même après son baptême par immersion d'adulte, et même après sa conversion, il peut y avoir la nécessité que le Seigneur continue à nettoyer et à renverser. Il ne s'agit pas, ne soyons pas des légalistes primaires, il ne s'agit pas de s'attaquer à des choses matérielles, voyez, non. Il est question de choses spirituelles, intérieures. Dans mon cœur, je peux avoir des pensées, des modes de pensée, des plis, des schémas qui ont besoin de disparaître pour qu'enfin la gloire de Dieu se manifeste dans toute sa dimension. Il peut y avoir dans mon cœur des murs. Des murs. Générés par des expériences négatives. Il peut y avoir des blocs qui ont besoin de disparaître. Il peut y avoir au fond de mon cœur des éléments qui n'ont pas leur place dans le temple de Dieu. Et leur disparition définitive va libérer l'espace afin que la gloire de Dieu s'y manifeste. Moi, j'aspire au plan personnel et au plan de l'Église que nous constituons que rien n'entrave la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Je me souviens, on était jeunes convertis dans la famille, notre pasteur avait invité un prédicateur renommé, un Américain qui, il y a 50 ans en arrière, qui avait un beau ministère. Mais vous savez, en Amérique, on n'a pas de complexe. Ce pasteur portait une perruque. Certains chrétiens n'ont vu que ça. Ils se sont fixés sur le fait qu'un homme de Dieu portait une perruque. Ils n'ont rien écouté de la prédication. Ils sont passés à côté de la bénédiction. Il y avait en eux quand même un défaut profond de mode de pensée. Il peut y en avoir chez les uns, chez les autres, chez moi-même. On peut juger, on peut cataloguer. On peut rapidement s'enferrer et s'enfermer dans des modes de pensée que dans sa bonté, le Seigneur veut renverser. Amen. Veut renverser. Je voudrais, pour ne pas être trop long ce soir, voir quels moyens Jésus a utilisé pour renverser tout ça et nettoyer le temple. Il s'est constitué un fouet avec des cordes. Et c'est avec ce fouet qu'il a renversé les tables, les sièges, donc tout ça s'était installé, hein. Ça faisait longtemps, c'était bien en place. Hein. Il a renversé, il a fouetté les arrière-trains des bœufs qui se sont réveillés, là, ils sont sortis du temple, il a nettoyé en utilisant cet ustensile sur lequel j'aimerais que nous portions les regards plus particulièrement. Parce que ce fouet, avec ses lanières, dans ma compréhension, peut très bien représenter la parole de Dieu, qui est le prolongement de la main du Seigneur, la parole de Dieu, mais pas n'importe quel message, le message de Jésus-Christ crucifié. Parce que le fouet parle aussi de la flagellation, ces fameux 40 coups moins 1 que l'on infligeait aux futurs crucifiés, par lesquels Jésus a passé. Ces lanières de cuir ou de cordes le long desquelles on tressait des boules métalliques et des os pointus pour donner du poids, mais aussi de la prise dans les chairs du supplicié. C'était des scènes bouleversantes. C'était quelque chose de saisissant, le spectacle de celui qui subissait les 40 coups moins 1 était un spectacle horrible. Les chairs étaient déchiquetées, c'était quelque chose d'horrible et ça suscitait d'une manière brutale des conséquences de santé immédiates. Ça touchait jusqu'aux os, ça touchait les veines, les nerfs, et c'était quelque chose d'horrible, horrible. Et Jésus a utilisé cet ustensile, qui, je le répète, pour moi, dans ma compréhension, nous parle du seul moyen que Dieu a choisi d'utiliser pour sauver les perdus, évacuer, détruire les conséquences mensongères et nuisibles du péché, renverser tous les mauvais modes de pensée, renverser, évacuer, nettoyer, purifier. C'est la prédication de Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul dira, nous prêchons Christ crucifié. Mes amis, chaque fois que le message du Christ crucifié est annoncé, c'est comme si l'Esprit de Dieu utilisait ce message comme les lanières pour faire un travail au fond des cœurs et pour renverser tout ce qui doit l'être et pour évacuer tout ce qui doit l'être afin que dans les temples purifiés se manifeste la gloire de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Le scandalum, c'était la pierre que l'on plaçait au milieu du chemin pour faire trébucher les piétons. Et le message du Christ crucifié a été une pierre d'achoppement pour la culture juive, hébraïque. Folie pour les Grecs, parce que celui que l'on qualifie de roi des rois, on le voit, le dos déchiqueté et portant très péniblement jusqu'à même s'effondrer en chemin, sa croix, pour les Grecs, c'est une folie. Mais ma Bible me dit, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. J'aimerais vous dire ceci. Lorsqu'à 16 ans et demi, j'ai commencé à entendre mes premières prédications, Dieu a fait du ménage. Il y avait des choses, malgré mon jeune âge, il y avait des choses dans ma vie secrète qui étaient établies, comme les tables et comme les sièges de ces changeurs. Ils étaient là. Mais je me souviens encore, mes bien-aimés, de ces prédications que j'écoutais en pleurant. En pleurant parce que le fouet libérateur par le Saint-Esprit était en train de travailler mon cœur. Que Dieu nous donne des cœurs qui se laissent travailler par le Seigneur, qui se laissent travailler par les lanières des prédications, gloire à Dieu. Et tout ce que Dieu juge nécessaire d'évacuer dans ta vie, permets-le lui. Amen. Ne t'agrippe pas à tous ces éléments qui sont pour ta perte finalement. Permet au Seigneur de nettoyer l'espace du temple que tu es, parce que sa volonté, c'est d'y manifester sa gloire. Si tu veux voir la gloire de Dieu, et je le crois, et moi aussi, je le désire autant que toi, permettons ensemble, Seigneur, de nous libérer. Alors, de nous libérer de quoi ? Je vais apporter trois précisions. Et je vais me focaliser sur la monnaie, les tables des changeurs. Donc, voilà. C'était des gens qui, dans ce trafic qui s'était installé, changeaient des monnaies. Parce qu'il y avait trois sortes de monnaies qui avaient cours. Il y avait la monnaie juive, la monnaie grecque, la monnaie romaine. Et alors, il fallait changer, trafiquer, il y avait des transactions, etc. Mais vous le savez, je vous l'ai dit, lorsqu'un jour je vous ai prêché sur le denier qui portait l'effigie de César, vous savez, je vous disais que les monnaies ont, depuis fort longtemps, été utilisées comme des supports de propagande. C'était comme des prospectus, en fait. Et selon le choix de certains pays, on marquait la monnaie de certains mots, de certaines valeurs. Par exemple, actuellement, c'est pour nous, dans le franc auquel nous étions habitués, liberté, égalité, fraternité. Bon, avant ça, il y avait travail, famille, patrie. Vous voyez ? C'était des manières de diffuser des valeurs. Voilà. En Amérique, le dollar, c'est « In God we trust ». Nous confions en Dieu, nous avons confiance en Dieu. Vous voyez ? Et la monnaie véhicule une philosophie, des valeurs morales, intellectuelles, politiques, parfois spirituelles. La monnaie juive représente le religieux. La monnaie grecque représente la sagesse humaine. La monnaie romaine représente l'œuvre diabolique. Et je vais développer ces points pour m'expliquer. La monnaie juive, c'est l'esprit religieux. C'est un moyen pour confirmer les traditions hébraïques, l'esprit religieux que le Seigneur Jésus a rencontré, auquel il a été confronté, et qu'il n'a pas ménagé. Dans certaines circonstances, il a eu des paroles. Il n'y a pas que ce jour-là dans le temple qu'il a renversé l'esprit religieux. Mais combien de fois, en s'adressant aux pharisiens, aux scribes, il a eu pour eux des paroles qui ont ressemblé comme à des coups de fouet. Hein ? Race de vipère, hypocrite, sépulcre blanchi. Mais vous ne nettoyez que l'extérieur de l'assiette. Quelle est parmi nous la ménagère qui fait la vaisselle comme ça ? Moi, je ne viens pas chez vous. Hein. Vous ne nettoyez que l'extérieur de l'assiette. L'esprit religieux, moi, j'ai relevé quelques caractéristiques de l'esprit religieux. Mais, frères et sœurs, je ne dis pas ça pour simplement qu'on les pointe de l'index en disant « Oh, les vilains !» parce que je peux risquer moi-même, et même à mon insu, de permettre l'installation de ces sièges et de ces tables de l'esprit religieux. L'esprit religieux, rapidement, premièrement, l'esprit religieux met toujours en avant l'apparence. L'apparence. Et je peux très bien venir avec le vocabulaire adéquat. Bonjour frère, alléluia, le Seigneur est bon. Mais intérieurement, ne pas vivre ces choses. Et je prie le Seigneur pour que tout ce qui sort de notre bouche soit le reflet et l'expression de ce que nous vivons dans le cœur. Amen. L'apparence n'intéresse pas le Seigneur, puisqu'il regarde non à l'apparence, mais au cœur. L'esprit religieux, c'est un esprit d'aveuglement. Jésus disait « Vous êtes des aveugles qui prétendent conduire d'autres aveugles ». Autrement dit, l'esprit religieux empêche les yeux spirituels d'accéder aux réalités de Dieu. L'esprit religieux, c'est un esprit d'illusion, comme ce pharisien qui fait cette prière. « Ah, je te remercie Seigneur, ça commence bien, mais la suite alors, parce que je ne suis pas comme ce pauvre publicain, ouh, le vilain. » Je te remercie parce que moi, je donne ma dîme, même la dîme de mes herbes aromatiques. Moi, je, et Jésus va dire, ce gars-là, il est rentré chez lui avec son péché. Et celui que le religieux méprise, le publicain, n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, tellement la conscience de sa misère, de sa honte, l'accable. Je ne suis pas digne, oh, sois apaisé envers moi, qui suis un grand pécheur. Et Jésus va dire, c'est lui qui va repartir libre, purifié, justifié, blanchi aux yeux du Seigneur. L'esprit religieux, c'est l'esprit de l'illusion. Et moi qui vous prêche, je m'adresse en premier à moi-même, je ne veux pas être dans l'illusion. Je ne veux pas dire, oh, j'ai 45 ans de carrière pastorale, oh, je suis riche, je me suis enrichi, l'église de la Odyssée, vous voyez. Et le Seigneur répond à l'église de la Odyssée, mais tu ne sais même pas que tu es pauvre, aveugle, nu. Je te conseille de me demander de se colir. Et vous connaissez ce texte tellement parlant que Dieu renverse l'illusion de l'esprit religieux, si ça devait exister quelque part, que Dieu nous visite et qu'il enlève ces choses-là. L'hypocrisie, le formalisme. Les pharisiens voient un jour les disciples de Jésus en traversant un champ de blé, arracher du blé, froisser et manger. Mais le formalisme des pharisiens, ils ne se sont pas lavé les mains. Ce n'est pas permis, ça. Ils enfreignent nos principes, le formalisme. Oh là là. La routine et l'autosatisfaction, ça caractérise aussi l'esprit religieux. Comment vis-tu ta vie chrétienne ? Dans une routine ? Oh, que le Seigneur renverse la routine. Amen. Gloire à Dieu. L'autosatisfaction. Merci Seigneur, mon nom est inscrit sur ton livre de vie. Ben oui, on peut le bénir, bien entendu, pour cela. Mais pas sous une forme d'autosatisfaction, pour une jouissance égocentrique de cette espérance merveilleuse. L'esprit religieux, c'est l'indifférence, la fuite et l'incapacité de compassion, comme ces religieux qui passent et qui voient le gisant du chemin. Il se vide de son sang, il va mourir, il gémit, il voit cette scène, ils sont incapables d'amour, incapables de compassion, ils passent outre. Oh là là, quelle parole dure à entendre et à lire. Ils passent outre l'indifférence, la passivité, l'incapacité de réagir pour secourir celui qui est en train de mourir. On pourrait continuer le descriptif de l'esprit religieux. Quoi qu'il en soit, Jésus veut renverser ça. Amen. On veut le lui permettre ? Seigneur, si c'était le cas, à mon insu, viens vite me secourir, afin que je vive authentiquement ma vie spirituelle, sans aucune forme de religiosité. La monnaie grecque, je disais, représente la sagesse humaine. C'est en Grèce antique qu'on a les plus célèbres philosophes, les penseurs. Un grec, ça pensait. Pensait surtout. Les Platons, les Socrates, les Épicures, tous ces philosophes, les Diogènes, les Pythagores, les Aristotes, c'était la sagesse humaine. Chacun analysait la vie, les éléments existentiels selon la sagesse humaine. Eh bien, Dieu veut renverser la sagesse humaine. Parce que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Parfois, il pourrait nous arriver, mes bien-aimés, de confondre la sagesse humaine avec la sagesse de Dieu. On a besoin, dans la prière humble, de rechercher sa sagesse, la sagesse d'en haut. Combien de fois, je vous le dis, Dieu m'a surpris et m'a révélé des éléments de sa volonté que j'étais loin de concevoir. Mais sa sagesse est toujours la meilleure, parce qu'elle est parfaite. Alléluia. La sagesse humaine, peut donner l'impression que on est prudent, réfléchi, cartésien, rationnel, 1 plus 1 ça fait 2, etc. Bon, mais bien des fois, Dieu veut bousculer notre sagesse et nous montrer que 1 plus 1, ça ne fait pas forcément 2, ça fait souvent beaucoup plus. Oui, parce que avec Dieu, 5 pains et 2 poissons, ça a nourri 15 000 personnes quand même. Ça, c'est les mathématiques du Seigneur, vous voyez. C'est le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu de la multiplication, c'est le Dieu illimité. Alléluia. Et si en toi, il s'est enraciné, établi des formats de pensée, de calcul, des schémas d'analyse qui ont besoin d'être renversés, eh bien, laisse le Seigneur les renverser. Parce que la suite, c'est que sa gloire va se manifester et que des hosannas vont remplir le temple. Et j'en arrive à la monnaie romaine, je court-circuite un petit peu, l'heure est avancée, et je disais que la monnaie romaine, c'est l'influence et l'action diabolique, parce qu'effectivement, il y avait dans l'esprit de l'Empire romain cette mentalité d'établir une domination comme un rouleau compresseur. L'Empire romain avançait pour dominer. Et ça nous parle, eh bien, de la volonté du diable. Vous savez que, voilà, Satan, c'est l'adversaire. Le diable, c'est le calomniateur. C'est l'accusateur. Jésus le présente comme le père du mensonge. Parfois, il va se comporter en adversaire frontal et parfois en séducteur diplomate, car il est le père du mensonge, il est même capable de se déguiser en ange de lumière. C'est le diable. Et l'apôtre Paul nous dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Vous voyez, Dieu veut nous éclairer, nous donner du discernement, son intelligence, pour que nous y voyons clair. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Ils sont forcément des desseins motivés par une malveillance profonde, le dessein de faire du mal, de voler, de détruire, de ruiner. Eh bien, Dieu veut renverser en nous certaines influences accablantes que notre adversaire chercherait à nous imposer. La culpabilité sur laquelle il va se plaire d'une manière sadique à appuyer. Il va mettre une insistance sur nos faiblesses, sur nos faillites. Je venais de baptiser une jolie jeune fille, une belle conversion, n'est-ce pas ? Et elle a rendu un beau témoignage le jour de son baptême. Dans la semaine, sa maman, pourtant chrétienne depuis des années, en observant dans la semaine une expression un petit peu d'impatience chez sa fille, lui dit « Ah, t'es baptisé, toi ? Eh ben, t'as pas servi à grand-chose de prendre ton baptême. » Vous vous rendez compte ? Mais ça, on fait le jeu de l'adversaire. Il est l'accusateur. Il va mettre son rayon lumineux sur les aspects honteux et défaillants de notre vie. Il est l'accusateur. Si quelqu'un devait avoir maille avec les accusations de l'accusateur, le Seigneur Jésus, ce soir, veut te visiter et il veut renverser ces accusations, ces rappels de certains épisodes de ton passé, peut-être les erreurs que tu as commises, il y a parfois même bien des années en arrière. Et l'ennemi veut, d'une manière ou d'une autre, établir son influence, sa domination. Eh bien, Jésus, par sa parole, par le message du Christ crucifié, qui n'est pas une défaite, mais une glorieuse victoire, veut renverser dans ta vie, dans ta conscience, dans ton subconscient même, dans ta mémoire, tout ce qui serait en lien avec une influence de ton adversaire. Que le Seigneur le fasse ce soir. Et que tous ceux qui peut-être sont victimes d'une manière ou d'une autre, qui subissent les conséquences handicapantes des desseins du diable, soient secourus par le Seigneur. Tu peux dire, Seigneur, enlève de mon être intérieur toute forme d'influence de l'adversaire et que ma foi triomphante dans le tout est accompli de Jésus me donne de relever la tête, amen, et d'entrer dans la pleine dimension de la victoire de Christ, que le Seigneur soit béni. Le diable, c'est aussi celui que l'apôtre Paul présente aux Galates sous la forme de celui qui cherche à nous arrêter. Vous couriez si bien, les Galates, vous couriez si bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? C'est le diable qui nous arrête. Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Dans un autre texte, l'apôtre Paul dira, Satan nous en a empêchés. Le diable, parfois, se manifestera sous les traits de celui qui veut arrêter, qui veut entraver, qui veut empêcher. Mais il est vaincu. Jésus est vainqueur. Et Jésus peut renverser les influences de l'empêcheur et libérer ton chemin. Qu'il le fasse ce soir. Lève-toi, va avec assurance, marche, reprends ta course, ne laisse pas l'adversaire t'arrêter. Et s'il a réussi un temps à te stopper, reprends ta course. Moi, j'ai envie de courir encore. L'Épître aux Hébreux nous dit, mais courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux sur Jésus. Alléluia. Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à sa perfection. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur me vienne en aide, te vienne en aide, nous vienne en aide et nous débarrasse en renversant tous les éléments pernicieux, les mauvaises croyances, les mauvais réflexes, les réflexes conditionnés par notre passé, notre éducation, que sais-je encore, qu'il nettoie le temple que nous sommes et que s'installe en nous la gloire de Dieu.